Alors, avec le bon micro, je vous redis bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce... Nous sommes le 9 mai, n'est-ce pas? Et... Alors, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Vous êtes bien placé pour savoir que nous sommes le 9 aujourd'hui parce que vous avez préparé la chronique éphéméride.
Et oui, je la prépare depuis plus d'un an, cette chronique du 9 mai. Mm-hmm. Donc, ceux qui sont habitués de m'entendre savent qu'au printemps, j'aime bien parler des grands explorateurs.
Vous dites que vous préparez cette chronique du 9 mai depuis un an?
Et oui, on peut rajouter ça à la fiche des éphémérides.
Eh bien, OK, ça fait un an aujourd'hui.
Non, en fait, ça fait plus de temps que ça, mais c'est un work in progress, comme on dit en bon français.
Oui, si on peut dire ça comme ça. Alors, allez-y.
Alors, dans la catégorie des grands explorateurs, un thème récurrent au printemps, le 9 mai 1502, Christophe Colomb quitte Cadix pour son quatrième et dernier voyage vers l'Amérique. Le 9 mai 1660, la chronique situe ce jour la bataille du Lonceau, où Adam Dollard des Ormeaux et 16 compagnons sont tués par les Iroquois. Le 9 mai 1885, à Batoche, au Manitoba, les Métis sont battus, leur chef Louis Riel sera pendu le 16 novembre suivant. 1913, première présence au cinéma du très célèbre Fantomas. C'est encore un coup de ce Fantomas! Le 9 mai 1933, un peu moins joyeux, premier auto-da-fé nazi à Berlin, où on fait brûler plus de 25 000 livres. 1960, les États-Unis autorisent la première pilule anticonceptionnelle. 1994, Nelson Mandela devient à 75 ans, et après avoir passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux, président de l'Afrique du Sud, premier noir chef de l'État dans l'ancien pays de l'apartheid. 9 mai 1996, une loi interdit la discrimination envers les homosexuels dans la fonction publique et les sociétés de juridiction fédérale au Canada. En 2001, toujours un 9 mai, à Accra, au Ghana, des spectateurs mécontents d'un match de soccer arrachent les sièges et les lancent sur la pelouse. Excellente idée. Quand on est mécontent, mettons le stade à feu et à sang.
Oui, c'est un petit peu dans cet esprit-là, peut-être, qu'Éric Lapointe a, à un moment donné, arraché son siège à l'émission La Voix parce que la chaise ne se tournait pas. Alors, lui, il a décidé de la tourner.
Bon, ça n'a pas eu la même conclusion qu'à l'émission La Voix. La police a riposté avec des gaz lacrymogènes causant une bousculade. Et mine de rien, pour un fait divers, on parle d'un bilan de 126 morts.
Oui, c'est incomparable avec ce que Éric a fait.
9 mai 2011, le premier ministre de l'époque, le premier ministre du Québec, Jean Charest, présentait son plan Nord, un mégaprojet de 80 milliards qui s'étale sur 25 ans. Et le 9 mai 2013, l'ex-maire de Laval, M. Gilles Vaillancourt, est arrêté par l'UPAC avec 34 autres personnes, dont je vous ferai grâce de ne pas toutes les nommer.
Oui, on vous comprend.
9 mai, finalement, c'est l'anniversaire de naissance de l'auteur écossais James Barrie. James Barrie, qui est l'auteur de ce grand conte pour enfants, conte multigénérationnel, Peter Pan.
Oui! C'est tout.
C'est déjà tout.
Bon, alors merci beaucoup. La presse change de main dans le giron de Power Corporation depuis des décennies. La presse volera bientôt de ses propres ailes. Le quotidien deviendra propriété d'un organisme à but non lucratif. Explications et réactions. Le mot du président, un grand pas en avant pour la presse. Et la chronique d'Yves Boisvert, la passation. C'est Régent Bourdeau qui signe l'article « La grande transformation du modèle d'affaires de la presse se poursuit. Après son virage numérique en information, la prochaine étape touchera sa propriété. Sa nouvelle structure prendra la forme d'une fiducie d'utilité sociale », a annoncé son président Pierre-Éliott Levasseur. Son actionnaire actuel, Power Corporation, ne sera plus propriétaire. Il n'aura plus de lien avec la fiducie considérée comme un organisme à but non lucratif qu'on appelle aussi OBNL. Pour la lancer, Power Corporation injectera 50 millions. De plus, un mécanisme sera mis en place pour conserver sous sa charge les obligations passées des régimes de retraite des employés. Vous avez tous réalisé mon rêve d'en faire le grand journal qu'il est, a dit André Desmarais, président du Conseil de la presse. Il est aussi président du Conseil délégué, président et co-chef de la direction de Power. La création d'une OBNL assure son futur à la presse et lui offre un avenir qu'elle ne pouvait avoir autrement, a-t-il ajouté devant le parterre d'employés au Palais des congrès de Montréal. C'est une approche moderne et c'est une première au Canada, a dit Pierre-Éliott Levasseur en entrevue. Ce modèle de fiducie est adapté à notre réalité et à celle que vivent plusieurs quotidiens en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Google et Facebook accaparent 80 % des revenus publicitaires numériques au pays. Cette situation a fragilisé le modèle traditionnel des médias écrits, même si les lecteurs sont au rendez-vous. Dans ce contexte, M. Levasseur considère que la formule d'une fiducie offre le meilleur des deux mondes. D'abord, a-t-il expliqué, la contribution financière importante de l'actionnaire permet à la presse de poursuivre son plan stratégique et sa transformation de façon ordonnée. Et en même temps, cela lui ouvre la porte à du financement qui actuellement n'est pas disponible. Le président a précisé que des discussions étaient en cours avec le gouvernement fédéral depuis un an. Il constate la situation où se trouvent les journaux et ils comprennent le rôle et la contribution significative des médias écrits à une démocratie saine, a-t-il dit. Ils étudient des mécanismes. Exclusif à la presse, la Gendarmerie royale du Canada envisage le dépôt de nouvelles accusations criminelles contre SNC-Lavalin en lien avec le versement de pots de vin au Canada, a appris la presse. Mais ce n'est pas tout, l'enquête policière s'est élargie et les enquêteurs ont saisi récemment des documents liés à plusieurs paiements secrets qui devaient aider l'entreprise à remporter des contrats autour du globe. Le 21 mars dernier, des agents de la GRC rattachés à la division des enquêtes de nature délicate et internationale ont fait éruption au siège social de SNC-Lavalin, boulevard René-Lévesque-Ouest. Ils étaient là pour saisir une énorme quantité de fichiers informatisés, tellement qu'il leur a fallu installer des policiers pendant plusieurs jours dans la salle des serveurs de l'entreprise afin de tout ramasser. L'affaire a été tenue sous silence, elle n'a pas été mentionnée publiquement à l'Assemblée annuelle des actionnaires de SNC-Lavalin la semaine dernière. Lors de cette assemblée, le président et chef de la direction, Neil Bruce, avait insisté sur l'importance de continuer à mettre le passé derrière eux. Oui, certains anciens dirigeants de SNC-Lavalin sont en attente de procès pour avoir truqué l'appel d'offres du Centre universitaire de santé McGill. Oui, l'entreprise elle-même est accusée de fraude et de corruption, d'agents étrangers pour avoir versé des millions au régime du dictateur libyen déchu Muammar Kadhafi. Mais il faut regarder vers l'avenir, avait insisté M. Bruce. Nous n'avons été reconnus coupables de rien jusqu'ici et nous ne croyons pas que nous allons l'être, mais c'est davantage une affaire de réputation et ultimement nous voulons mettre cela derrière nous. La perquisition de mars dernier risque de compliquer les choses. Aurait vendu une Hyundai Accent neuve qui était accidentée. La conjointe d'un juge à la retraite mène une bataille contre un concessionnaire montréalais à qui elle reproche d'avoir vendu à son mari un véhicule neuf déjà accidenté. « Je suis tombée à terre quand j'ai découvert que notre Hyundai Accent 2017 avait subi des dommages de quelques milliers de dollars avant même qu'on en prenne possession », s'indigne Louisette Lanneville, 83 ans, ce que nie le directeur général de Coiteux Hyundai, Jean-Sébastien Coiteux. L'affaire débute en mai 2017. Louise Lanneville se rend chez le concessionnaire avec son conjoint pour y acheter une belle Accent de l'année flambant neuve. C'est du moins ce que croit le couple d'octogénaires jusqu'à ce que monsieur ait un accrochage ce printemps et se rende chez son carrossier pour faire réparer son véhicule. Il devait bien y avoir pour plus de 3 500 $ de dommages et il ne fait pas de doute que le véhicule avait perdu de la valeur, raconte Denis Pinero, gérant de la succursale Van Horn de Procolor. Il soutient que des réparations importantes avaient été effectuées en appliquant de grandes quantités de pâte correctrice mastic du côté droit principalement. C'est à la fois déplorable et désolant comme pratique de vente de la part de concessionnaires. Chez Coiteux Hyundai, le directeur général Jean-Sébastien Coiteux maintient que rien ne démontre qu'il y avait eu des dommages sur le véhicule vendu comme neuf, comme l'indique le contrat de vente. Thermitus veut être entendu par l'Assemblée nationale. Dans une lettre envoyée à l'Assemblée nationale, Tamara Thermitus soutient que demander sa démission ou sa destitution à ce stade-ci constitue un grave déni de justice et une entrave aux principes de justice naturelle les plus élémentaires. La présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande à être entendue par le parlementaire au moment opportun. Sa sortie survient une semaine après le dépôt du rapport de la vérificatrice externe, Lise Véraud, commandée par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Selon ce rapport, Mme Thermitus doit quitter la tête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle a un style de gestion inapproprié et n'a pas ce qu'il faut pour redresser la situation au sein de cet organisme aux prises avec divers problèmes internes, estime Lise Véraud. En arrêt de travail depuis octobre dernier, Tamara Thermitus a écrit le 3 mai au président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, une lettre qui a été déposée au Salon Bleu hier. Elle constate que le rapport Véraud a suscité des réactions suite auxquelles l'on demande sa démission et ou sa destitution sans indemnisation. Le constat du rapport de Mme Véraud concernant Mme Thermitus est très dur et sans appel. Pour nous, il est clair, comme il était clair la semaine dernière, qu'elle doit démissionner, a dit Véronique Yvon, vice-chef du Parti québécois et porte-parole du parti en matière de justice. Dans sa lettre, Mme Thermitus souligne que l'enquête du protecteur du citoyen contre elle, qui concerne des plaintes pour mauvaise gestion notamment, se poursuit toujours. Rappelons qu'elle avait tenté de faire annuler cette enquête devant les tribunaux pour ensuite abandonner ses démarches. Et pour terminer, la première dame des États-Unis, Melania Trump, a fustigé hier les médias de l'opposition qui ont mis l'accent sur le fait que son initiative contre le harcèlement sur l'Internet lancée la veille s'appuyait sur une brochure de l'ère Obama. La campagne, lancée lundi lors d'une cérémonie officielle à la Maison-Blanche, est centrée sur la protection des mineurs contre l'utilisation négative des réseaux sociaux, comme le cyberharcèlement, et appelle au respect et à la compassion dans les échanges. Certains médias américains ont noté qu'une brochure présentait plusieurs similitudes avec celle publiée par la Commission fédérale du commerce en 2009 sous l'administration du démocrate Barack Obama, qui évoquait les dangers de la navigation sur l'Internet sans contrôle parental. Sur le site Internet officiel de Be Best, Soyez meilleur, les crédits du document étaient à l'origine attribués conjointement à Mme Trump et à la FTC, la Commission fédérale du commerce, avant de devenir un document de la FTC promu par Melania Trump.
J'ai monté, maintenant je descends. J'ai déjà perdu trop de temps à me regarder partir, à ne plus m'appartenir. Jamais été aussi bas, jamais vu ma vie sans toi. J'avais la honte à mes bras et la mauvaise image de moi. Et... hey oh, hey oh, est-ce que je me rends? Hey oh, hey oh, est-ce que je me marre? Est-ce que j'ai passé mon moment? Où est-ce qu'il commence maintenant?
Je vois un monde dans mes décors. J'ai un empire à
singer, des désirs effervescents et des promesses à tenir, un passé à laisser partir. Est-ce que je me rends SO, SO, est-ce que je me mens? Est-ce que j'ai perdu ma vie d'avant? Est-ce que je renais maintenant?
Une des nouvelles culturelles incontournables des 24 dernières heures, c'était Marie May qui change beaucoup, change d'étiquette de disque, change de maison de gérance, lance un nouvel album prochainement, et c'était le premier extrait de cet album à venir. La pièce s'intitule Empire.
À la une du Devoir de ce 9 mai 2018, l'éditeur de la presse Guy Crevier, le président et co-chef de la direction de Power Corporation, André Marais, sont à la une en photo du Devoir. Alors, sous la photo aussi, on peut lire « Média, les Desmarais cèdent de la presse à un OBNL. La survie du quotidien reposera en partie sur les subventions et les dons. » Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien. Inconduite sexuelle, le NPD suspend la députée Christine Moore. Festival de Cannes, Kate Blanchett et ses jurés, de fortes personnalités venues d'horizons divers, entourent la présidente. On a une photo de Kate Blanchett avec deux des jurés, Denis Villeneuve et Robert Guédigan. Économie, Québecor rachète son indépendance. L'entreprise versera 1,7 milliard à la Caisse de dépôt pour les actions qu'elle possède encore dans Québecor Média. Les Desmarais cèdent la presse à un OBNL. En entrevue au Devoir, le président a nié avoir fait des démarches pour vendre la presse auprès d'acheteurs potentiels au cours des derniers mois. Ce qu'on a fait, c'est évaluer tous les modèles possibles. On s'est posé la question s'il y avait des acheteurs qui nous mettaient en meilleure position qu'on l'est aujourd'hui, mais sincèrement, le scénario qu'on a choisi, c'est celui qu'on estime le meilleur. La future presse transformée devra d'abord se doter d'un président de conseil d'administration. Il sera nommé sur une proposition conjointe de la direction de la presse avec l'actionnaire Power Corporation, d'expliquer Guy Crevier, ce qui est normal. Mais après ça, le président du conseil va agir de façon totalement indépendante et le renouvellement des membres va se faire par le conseil. Power n'aura plus aucun lien avec ça. Guy Crevier a assuré pour sa part qu'un retour au format papier n'est pas envisagé et que la presse plus, qui attire selon l'entreprise 260 000 lecteurs, restera offerte gratuitement. Depuis sa création il y a 5 ans, la direction assure que l'application tablette restera gratuite pour toujours. À terme, donc, Power Corporation ne sera plus propriétaire de la presse, mais elle continuera d'assumer les dépenses du fonds de pension des retraites retraités actuels et des employés actifs. La contribution de 50 millions de dollars de Power Corporation permettra à l'entreprise d'exécuter d'une façon ordonnée. Le plan stratégique en quatre étapes de la presse a expliqué M. Levasseur. Une de ces étapes serait la création d'une application mobile qui serait à la hauteur de l'application tablette. Alors, quand on parle de M. Levasseur, il s'agit du président qui s'appelle Pierre-Elliott Levasseur. Après plusieurs mois de menaces, c'est sans surprise que le président Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions américaines. Une décision désapprouvée par tous les autres signataires qui craignent une escalade de tensions. La vie ne sera pas facile pour Trump dans les prochains mois. Le monde, surtout le Moyen-Orient, se dirige vers une plus grande insécurité. Et les États-Unis viennent de perdre un grand levier de contrôle sur l'Iran, estime Vahid Yousoussoi, membre du Centre d'études et de recherche internationale, le CIRIUM. 15 mois après son arrivée au pouvoir, M. Trump a tenu une promesse de campagne, démanteler cet accord emblématique, fruit de 21 mois de négociations internationales pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Nous ne pouvons empêcher une bombe nucléaire iranienne avec la structure pourrie de l'accord actuel. L'entente avec l'Iran est défaillante dans son essence même, a dit le président lors d'un discours d'une dizaine de minutes à la Maison-Blanche. M. Trump a justifié sa décision par le fait que cet accord désastreux n'empêchait pas l'Iran de développer son programme nucléaire et de financer des organisations terroristes au Moyen-Orient. Il n'y a rien de surprenant dans la décision de M. Trump. C'était une de ses promesses et, selon moi, il se sert du retrait de l'accord comme écran de fumée pour détourner l'attention des scandales dans lesquels il est plongé, que ce soit celui avec Stormy Daniels ou l'enquête sur la collusion avec la Russie, croit Michel Fortman, professeur honoraire en sciences politiques à l'Université de Montréal. Le chef du nouveau Parti démocratique a suspendu de ses fonctions parlementaires sa députée abitibienne Christine Moore après qu'elle a fait l'objet d'une allégation d'inconduite sexuelle. La députée, qui est elle-même à l'origine d'une allégation ayant valu à un autre élu son expulsion du caucus, promet de participer à l'enquête. L'allégation a été rapportée par le réseau CBC. En 2013, le vétéran Glenn Kirkland était venu expliquer en comité parlementaire à Ottawa comment, après avoir été blessé en Afghanistan, il s'était senti abandonné par le gouvernement canadien. Il avait terminé son témoignage en larmes. Madame Moore, qui était membre du comité, lui aurait proposé de passer à son bureau et lui aurait offert un verre de gin. Il aurait refusé parce qu'il prenait des médicaments, mais aurait fléchi devant l'insistance de la députée. Elle l'aurait ensuite suivi à sa chambre d'hôtel, où ils auraient eu une relation sexuelle. Madame Moore lui aurait par la suite envoyé des textos explicites. Elle l'aurait même rejoint en Saskatchewan. Il lui a alors indiqué qu'il n'y avait rien entre eux, mais qu'elle aurait quand même fait quelques semaines plus tard une visite surprise à son domicile de Brampton, où il a dû se montrer brusque. Elle aurait alors cessé ses contacts. Erin Weir a été expulsée du caucus néo-démocrate par Jagmeet Singh la semaine dernière. Ses déboires ont débuté lorsqu'il a tenté de devenir président du caucus. Madame Moore s'y est alors opposé, écrivant à tous ses collègues qu'il harcelait les femmes et qu'elle ne serait pas à l'aise de se trouver seule en sa présence. Plume la traverse à l'Assemblée nationale. Une belle photo dans la presse, dans Le Devoir plutôt. Plume la traverse, donc, qui recevait mardi la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, a réussi à dérider ceux qui lui rendaient hommage, s'il faut en croire donc cette photo, où on le voit sérieux pendant que la ministre Dominique Anglade et le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, éclatent de rire. D'autres personnalités ont été honorées au cours de cette cérémonie, dont l'humoriste Yvon Deschamps et la journaliste Céline Galipeau. Cannabis, la loi québécoise s'appliquera, réitère Jean-Marc Fournier. Québec interdit ce qu'Ottawa autorise, la culture à domicile de quatre plants de marijuana. Le ministre responsable des relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, persiste et signe « La loi québécoise qui interdira la culture de marijuana à la maison s'appliquera, en dépit de la volonté d'Ottawa d'imposer un régime national de légalisation du cannabis. » Ça n'existe pas un régime fédéral, un régime national. La preuve, toutes les provinces sont dans un processus législatif en vue de la légalisation du cannabis, a fait valoir le ministre mardi. Montréal n'a pas fixé de limite de décibels pour les spectacles qui seront présentés cet été au Parc Jean-Drapeau, mais la mairesse Valérie Plante promet de trouver une solution pour les années subséquentes. L'arrondissement de Ville-Marie a approuvé mardi soir une ordonnance pour permettre la tenue d'événements générant du bruit au Parc Jean-Drapeau entre 7h et 23h. Cette mesure vise les spectacles présentés au Parc ainsi que la tenue du Grand Prix du Canada et des Feux Loto-Québec. L'ordonnance ne fixe cependant pas de limite quant aux décibels autorisés. Certaines mesures seront tout de même mises en place dès cette année pour tenter de réduire les impacts sonores des événements et un suivi serré de la situation sera fait au cours de l'été. Le maire Brodeur sait que je souhaite à long terme trouver des solutions. Je veux être une bonne voisine. Alors le maire Brodeur, c'est le maire de Saint-Lambert et la bonne voisine donc, qui s'exprime, c'est Valérie Plante. On se retrouve après la pause et la chanson avec la suite de l'émission, dont la revue de presse du Journal de Montréal.
Don't know why he making me laugh. Let's go get We were born to die. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long. Carry on. Try to have fun in the meantime.
On vient d'entendre la chanteuse Lana Del Rey et la pièce Born to Die, première pièce de l'album du même nom paru en janvier 2012, pièce également que plusieurs ont pu découvrir dans le film Mummy de Xavier Dolan.
Du Journal de Montréal, la presse se fait larguer. Power Corporation transforme le média en organisme à but non lucratif. L'éditeur de la presse, Guy Crevier, et André Desmarais, président et co-chef de la direction de Power Corporation, à leur arrivée au Palais des Congrès, où ils ont annoncé la nouvelle aux employés. C'est la photo que propose le Journal de Montréal de ces deux hommes, M. Crevier, M. Desmarais, et aussi la chronique de Mario Dumont que je vais vous lire, intitulée « Une société d'État déguisée? » Point d'interrogation. C'est le Festival de Cannes. On voit Denis Villeneuve aux côtés de Cate Blanchett. Denis Villeneuve parmi les stars à Cannes. 63 plus de décès sur les routes. Hécatombe chez les jeunes. Québécois s'affranchit de la caisse de dépôt. La chronique de Mario Dumont intitulée « Entre Power Corp et Charité ». Je crois bien que tout le monde au Québec voulait voir l'avenir de la presse assuré. Qu'on ait aimé ou pas sa ligne éditoriale, il s'agit d'une grande institution du Québec et d'un important réservoir de talents journalistiques. J'ai beau être très fier du journal où j'ai le privilège d'écrire, une société démocratique doit maintenir une diversité de sources d'informations. J'avoue mon énorme ambiguïté devant ce nouveau modèle d'organisme à but non lucratif que devient le Grand Quotidien montréalais. Ce n'est pas rien, passer du giron de Power Corporation à ni plus ni moins qu'un organisme de charité. Point de suspension. De toute évidence, cette nouvelle a semé l'enthousiasme à l'interne. Les employés craignaient qu'un véritable acheteur soit synonyme de réduction des dépenses et donc de mise à pied importante. Le nouvel OBNL ne semble pas vivre avec l'impératif de rentabilité qu'aurait annoncé un acquéreur ayant signé un vrai chèque de sa poche. Ce nouveau modèle soulève néanmoins des questions énormes pour la suite des choses. Interrogé à savoir comment un OBNL ramènerait la rentabilité à la presse, les dirigeants ont été transparents. Ce sont les subventions gouvernementales qui deviennent maintenant possibles. Il n'est nullement question de revoir en profondeur la structure des dépenses. Il n'y a pas de changement du modèle de la presse plus pour générer de nouveaux revenus. Pour cette organisation qui roule visiblement dans le rouge, la différence au bilan doit venir d'abord des octrois de fonds publics, peut-être ensuite des dons philanthropiques. Si l'État doit assurer année après année la survie financière de l'organisation, la presse devient-elle une espèce de société d'État déguisée? Le modèle de Radio-Canada. La SRC génère des revenus autonomes, notamment par la vente de publicité, mais c'est la subvention gouvernementale qui boucle la boucle. Souvenons-nous de la guerre livrée par Radio-Canada contre Stephen Harper. Celui-ci avait demandé un effort financier à toutes les sociétés d'État, incluant la SRC. On l'a accusé d'avoir coupé les vivres à Radio-Canada, où il était devenu l'ennemi numéro un. Une fois élu, Justin Trudeau annonce rapidement l'impensable somme de 700 millions supplémentaires. Délicate position. Décision politique? Dorénavant, la capacité de la presse de maintenir son niveau d'employé pourrait bien dépendre en grande partie d'une décision annuelle du gouvernement. Le montant de la subvention. Situation précaire. Pire encore que la SRC, qui est une organisation publique avec un long historique. La presse risque de bénéficier d'un programme nouveau et sculpté sur mesure pour ses besoins. D'ailleurs, permettez-moi de m'interroger sur l'impressionnante confiance que cette aide gouvernementale viendra. Il y a des gens bien connectés chez Power Corporation. Ont-ils fait l'annonce d'hier comme un pari risqué en espérant que les pouvoirs publics embarqueront? Ou auraient-ils obtenu des garanties secrètes du gouvernement Trudeau? Leur OBNL est un récipient à subvention. Ils ont l'air bien certains que quelqu'un va verser quelque chose dedans. Quelle sera la structure de l'OBNL? Qui en dirigera les destinées? Qui fixera la ligne éditoriale? Beaucoup de questions demeurent. Un nouveau modèle? Une prudence extrême est requise. Fin des enquêtes sur Roson et Salvaille. Plus de 40 plaintes avaient été déposées au SPVM. Les enquêtes lancées par la police de Montréal sur les plaintes déposées contre Gilbert Lauzon et Éric Salvaille sont maintenant terminées. C'est ce qu'a rapporté Radio-Canada hier soir. Selon la chaîne télévisée, le directeur des poursuites criminelles et pénales des PCP évaluerait présentement les enquêtes menées par la police de Montréal afin de déterminer si des accusations seront déposées contre l'ex-animateur et producteur Éric Salvaille ou contre l'ex-dirigeant de Juste pour rire, Gilbert Rozon. Rappelons que l'automne dernier, des allégations visant les deux hommes avaient été diffusées dans les médias. Ces reportages ont mis un frein aux carrières de Salvaille et Rozon, tous deux vendant leurs entreprises et disparaissant du domaine public. Marguerite Blais n'était pas en phase avec la position libérale. Désormais libérée de la solidarité libérale, la nouvelle vedette caquiste Marguerite Blais défendra l'interdiction des signes religieux chez les employés de l'État en position d'autorité. L'ancienne ministre libérale portera les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Prévost aux prochaines élections. Elle a choisi le parti de François Legault pour un retour dans l'arène politique, même si Philippe Couillard et, dans une moindre mesure, le Parti québécois l'ont également sollicité dans les derniers jours. C'est l'engagement de François Legault pour une véritable politique des proches aidants et l'amélioration des conditions de vie des aînés qui l'ont convaincu, une cause qui l'habite. plus d'accidents chez les jeunes. Des parents endeuillés demandent au gouvernement d'agir contre le cannabis, la vitesse et le cellulaire. Le message n'est pas entendu, c'est évident, soupire Hélène Charlebois, dont le fils Clément Elief, 18 ans, est mort lors d'une course de rue à Saint-Esprit dans la Naudière en février 2017. La SAAC a annoncé hier une hausse de 63 % des décès chez les jeunes sur les routes du Québec en 2017, une statistique préoccupante pour l'organisme et le ministre des Transports malgré une diminution du nombre d'accidentés global. Pour le père de Clément, André Elief, la solution passe par davantage de campagnes de sensibilisation, surtout auprès des jeunes hommes. Les parents de Clément Elief se disent inquiets aussi de la légalisation imminente de la marijuana, qui aura un effet dévastateur, ou désastreux, dis-je bien, chez les jeunes conducteurs. « Ça me fait énormément de peine de voir tous ces jeunes se tuer. Il y a quelque chose à faire. C'est épouvantable. À cause de leur téléphone, ils ne regardent même plus la route. » Laisse tomber Jacques Hervieux, père de Gaël Hervieux, qui a perdu la vie après avoir heurté de plein fouet un camion-remorque sur la route 122 près de Victoriaville en juin 2017. Même si le rapport du coroner n'a pas encore été dévoilé, M. Hervieux croit que son fils textait au volant lors de l'impact. Peut-être qu'il faudrait être plus sévère pour les textos au volant et criminaliser ça, comme l'alcool au volant, se demande-t-il.
Mon cœur bat pour ton cœur, si courent nos jours de bonheur. Le monde est triste quand t'es plus dans le décor. Dis-moi, t'es où, il fait si froid dehors. Moi, mon cœur bat pour le jour. Tu reviendras, mon amour. Quand t'es pas là, peu importe le mois. Mon existence, y a trop d'indifférence. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Pour nous deux, royaume des gens heureux. Si la vie est souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Battra plus quand tu auras disparu. Allez, réponds-moi, dis-moi que t'es encore là. Le reste, je m'en fous. Je ne suis qu'un voyou sans toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Thank you.
vient d'entendre l'auteur, compositeur, interprète Sébastien Lacombe avec la pièce « Moi, mon cœur bat ».
Les journaux régionaux, une exclusivité dans le soleil sous la plume d'Yves Terrien. Non-agression dans le monde du jeu vidéo, le dialogue mieux que des lois. Dans un contexte de plein emploi dans la région de Québec, il est normal que des employés passent d'un lieu de travail à l'autre dans le même secteur de l'industrie. C'est le cas dans le monde du divertissement, mais parfois les approches causent des frictions. Interrogé sur les rumeurs de démarches pour conclure un pacte de non-agression dans le monde du jeu vidéo, Martin Carrier, président et chef de la direction du studio Frima, nie les bruits qui courent. Toutefois, il a confirmé au Soleil avoir eu des discussions avec des directeurs de studios de jeux et de divertissement de Québec pour améliorer les relations entre les différentes entités de l'écosystème numérique. Pour lui, il est essentiel d'avoir un dialogue constructif pour le bien de toutes les parties. Un pacte de non-agression, personne ne signerait cela. Moi non plus. C'est normal que des employés choisissent de faire carrière dans un autre studio parce qu'un projet les passionne. C'est arrivé pour un de nos employés ces jours-ci. Par contre, certains joueurs du milieu sont particulièrement agressifs. Ce n'est pas bon pour personne dans l'univers numérique de la région, souligne M. Carrier. Sans vouloir parler de vol d'employés, M. Carrier est d'avis que le dialogue vaut mieux que des lois, même non écrites. Comme ancien président de l'Alliance numérique, il précise avoir défendu les gens de l'industrie à maintes reprises. Et il continuera de le faire pour la viabilité de l'écosystème numérique de Québec. Les discussions continuent, certains dirigeants ont manifesté de l'intérêt, une oreille attentive, alors que d'autres semblent totalement insensibles à son argumentation. Mais Martin Carrier refuse d'identifier qui que ce soit. Ce n'est pas la première fois qu'un dialogue est entamé sur la mobilité du personnel. Au cours des 15 dernières années, les rencontres avaient permis de faire baisser la pression. Il y avait même eu la création de l'école de divertissement interactif avec la participation de tous les studios pour former des spécialistes plus rapidement que dans le parcours des institutions d'enseignement. L'effervescence et les nouveaux projets profitent à tous dans la région, soutient M. Carrier, mais cela ne doit pas se faire au détriment des autres entreprises par des démarches très agressives qui nuiront à tous. Force est de constater, dans Saint-Roch particulièrement, où il y a une concentration de studios, que certains ont ouvert la machine de la croissance à fond de train. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, car le secteur technologique est en grande demande de spécialistes dans divers secteurs, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, même le monde de l'assurance avec ses 10 sièges sociaux à Québec est à la recherche intensive de gens de talent en informatique, en programmation, en 3D, en réalité augmentée et en web. Rappelant que la circulation des talents d'une entreprise à l'autre fait partie de la réalité, M. Carrier soutient que les manières d'agir importent beaucoup, beaucoup dans les démarches de recrutement intensif. Il faut être conscient des marges de manœuvre les uns des autres. L'idée des discussions est d'agir de façon responsable comme citoyen corporatif. Tout le monde sortira gagnant dans une approche respectueuse de chacun. Pour attirer des gens, des studios font des portes ouvertes, organisent des concours et des stages, ce qui est, à son avis, une approche saine de développement des nouveaux talents. Dans le Nouvelliste, le Centre de prévention suicide Centre de la Mauricie, Mekinac, met définitivement la clé sous la porte. L'organisme qui s'était vu révoquer son financement par le CIUS Mauricie et Centre du Québec en février dernier n'aura pas réussi à se faire entendre pour que cette décision soit revue. Devant une absence complète de financement, les membres ont procédé à la dissolution de la corporation lundi soir. On a bien tenté de redresser la situation et de démontrer que nous étions en mesure de remplir les exigences du CIUS, mais la décision a été finale. Devant ce constat, les membres ont procédé à la dissolution de la corporation d'Assemblée générale spéciale, indique Denis Mercier, président par intérim du conseil d'administration de l'organisme. Ce dernier déplore d'ailleurs que le CIUS ait tout simplement refusé de rencontrer le nouveau conseil d'administration dans son processus d'appel. Ce n'est certainement pas de gaieté de cœur que les membres en sont arrivés à cette difficile décision, assure M. Mercier. C'est désolant parce que c'est la population qui sera victime de tout ça. Il y avait énormément de besoins dans la région, tellement que nos appels et nos rencontres d'intervention étaient à la hausse cette année, autant que nos endeuillés. On se souviendra que cet hiver, le CIUS-MCQ a révoqué le financement de l'organisme. 11 mesures de redressement avaient été demandées de la part du CIUS qui avait retenu les versements du financement de l'organisme pendant près de 6 mois. En décembre, 8 de ces 11 mesures avaient été remplies, permettant le retour d'une partie du financement. Or, l'organisme avait jusqu'au 31 janvier pour se conformer à toutes les exigences du CIUS, ce qui, visiblement, n'avait pas été fait. Le financement a donc été révoqué. Alors, un peu plus bas, on peut lire « Il est important que la population sache qu'il y a des ressources qui demeurent, en attendant la mise en place de cette nouvelle offre de services. Que ce soit par la ligne 1-866 appel, le service 811, ou encore dans nos différents CLSC, il y a des ressources. Le suicide ne devrait jamais être une option, et on invite les gens à téléphoner s'ils en ressentent le besoin. » Dans le quotidien, le Festicam de Saint-Honoré, anciennement connu sous le nom de Festival des camionneurs de Saguenay, est de retour pour une deuxième édition. La nouvelle mouture du festival va se dérouler sur 3 jours, du 14 au 16 septembre prochain, sur un terrain près de l'aéroport de Saint-Honoré. La présidence d'honneur est d'ailleurs assurée par le maire de la ville, Bruno Tremblay. Musique en soirée, espace pour les familles ainsi que la fameuse parade font partie de la programmation. Et toujours dans le quotidien, Denis Villeneuve, une annonce économique importante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait avoir lieu jeudi, alors que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son homologue du Québec, Philippe Couillard, seront de passage à Chicoutimi dans le cadre d'une activité où serait impliqué Rio Tinto. Selon les informations colligées par le quotidien, les députés fédéraux et provinciaux de la région, de même que le cabinet de la mairesse de Saguenay, José Néron, ont été prévenus d'ajouter à leur agenda l'activité qui devrait avoir lieu jeudi après-midi à l'aréna de l'UQAC. Dans la tribune, Jonathan Custeau, le commerce de bière au vent du Nord cherche à obtenir l'aide de la ville de Sherbrooke pour rénover son bâtiment de la rue Belvedere Nord. Son propriétaire, Nicolas Raté, s'est pointé au conseil municipal lundi pour déplorer qu'il ne soit pas admissible au programme d'aide à la rénovation au centre-ville parce qu'il ne figure pas dans le périmètre du centre-ville. « J'ai pris connaissance du programme de subvention pour la revitalisation liée à Well Inc. Moi, j'ai une vieille bâtisse sur Belvedere Nord que j'ai achetée en 2011. Je me suis dit que je pourrais avoir un impact sur le bonheur des gens en vendant de la bière. » Mais en achetant le bâtiment construit en 1920, j'ai aussi acheté ces problèmes. J'ai déjà rénové le toit, mais la façade laisse entrer l'air. L'hiver, mes employés travaillent avec des combines et un manteau. Parfois, il fait 1 degré sur le plancher, explique M. Raté. Le propriétaire souhaite donc rénover son commerce dès cette année. Je ne veux rien faire d'extravagant, pas de flafla. Je veux juste lui redonner une chaleur du Nord. Je veux juste le remettre comme dans le temps. Pourquoi je n'ai pas droit à un crédit sur mes rénovations? Je suis comme une anomalie. Je fais partie du centre-ville, j'ai des bières de partout au Québec, je reçois des clients des États-Unis et du Québec, j'ai 2 commerces et j'embauche 17 employés. Je pense faire rayonner beaucoup ma ville avec mon commerce. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce mercredi 9 mai 2018. Merci d'être avec nous. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Et dans un petit moment, il y aura les actualités culturelles. On parlera de Marie-Mé. On a entendu une chanson d'elle tantôt. Et puis, il y aura aussi des nouvelles de Morane. Hommage à Morane.
plus récente pièce de Marat Tremblay, tirée de son album Cassiopée, c'était la pièce « Mon chéri ».
Nouvelle culturelle dans le Nouvelliste, d'abord et avant tout, le musée québécois de culture populaire n'est plus. Vive le musée pop. C'est Mathieu Lamotte qui signe cet article. Le lieu consacré à la culture québécoise sous toutes ses formes a en effet pris un virage à 180 degrés. En ce qui a trait à son appellation ainsi qu'à son image de marque, comme le Nouvelliste l'a révélé il y a quelques semaines, les dirigeants du musée situé à l'intersection des rues La Violette et Art au centre-ville de Trois-Rivières planchait bel et bien sur cet important projet et avait confié le mandat de création à la firme trifluvienne Acolyte. L'annonce a été faite en fin d'après-midi, mardi, donc hier. Le but avoué de ce changement est d'adopter une attitude plus simple, plus moderne et plus percutante sans revoir le fonctionnement ou la mission de l'endroit. De plus, il semble que des études relatives au positionnement stratégique de l'institution qui ont été effectuées par l'Université du Québec à Trois-Rivières ont permis de constater que le nom précédent était long et difficile à retenir. Même moi, j'étais mêlée au début. De plus, il n'était pas tout à fait représentatif d'où on voulait aller et de ce que nous voulons offrir à notre clientèle, explique la directrice générale du musée, Valérie Terrien. Un nom qui est efficace en termes commerciaux, d'approche, de mémorisation et de notoriété, ça se veut court, actuel et distinctif. Et ça devait être évocateur de la mission du musée, poursuit un des concepteurs, ayant travaillé sur ce projet, Denis Roy. On va mettre un accent particulier sur le pop car les gens ont tendance à raccourcir. Au final, les gens vont l'amener à sa plus simple expression, fort à parier que pop va supplanter musée dans le langage populaire, poursuit M. Roy. Ce renouveau ne se limite pas au logo et au nom. Le site Internet a également été complètement revampé et sera opérationnel pour la prochaine saison touristique. Il sera doté d'une nouvelle adresse www.museepop.ca et la nouvelle image de marque y sera évidemment présente. Marie-Mée, alors c'est un article d'Émilie Côté, le grand retour de Marie-Mée. Un nouveau label, une nouvelle agence de spectacle et un nouvel extrait d'un sixième album qui sortira le 28 septembre, dont on vous faisait entendre donc cette chanson tantôt. C'est Jean-Sébastien Laliberté qui a mis cette chanson, pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre. Alors Marie-Mée a fait plusieurs annonces hier au Centre Bell. La presse a aussi eu la chance d'assister avant-hier au tournage du clip de la chanson Empire, tour d'horizon. Alors, une citation d'abord de Marie-Mée, « Je voulais être au centre de ce que je fais, que tout parte de ma vision, prendre plus d'autonomie. » Marie-Mée a fait les choses en grand hier pour dévoiler les changements apportés à sa carrière. C'est sur le parterre du Centre Bell, avec d'immenses projections, qu'elle a annoncé son union avec la famille Spectra Evenco. Spectra sera sa maison de disque alors qu'Evenco produira ses spectacles. Marie-Mée a aussi dévoilé une nouvelle chanson, Empire, et la tenue d'un spectacle au Centre Bell le 15 février 2019. Enfin, a lancé Marie-Mée en ouverture, par où commencer? Je m'appelle Marie-Mée, j'ai 33 ans, je suis une maman et je suis une auteure-compositrice-interprète. Au cours des deux dernières années, l'artiste a vécu le grand bonheur d'être mère, mais aussi la plus grande remise en question artistique de sa vie. Est-ce que j'ai encore envie de faire cela? S'est-elle demandée. J'ai senti un déséquilibre entre qui j'étais comme personne et ce que je faisais musicalement et sur scène. Je voulais m'épanouir. En janvier 2016, Marie-Mée a annoncé que Fred de Saint-Gelais et elle mettaient fin à leur union. Le couple était aussi un tandem créatif. Je me suis séparée et c'est une chose, mais ceux qui m'ont fait perdre confiance en moi, ce sont les gens qui disaient « Mais que va-t-elle faire maintenant? » raconte Marie-Mée. Comme si je n'étais pas une auteure, compositrice, interprète. Je fais ce métier-là depuis 15 ans et des gens pensent que je ne suis pas capable d'écrire des tunes. « Cela m'a beaucoup échaudée », poursuit-elle, « alors que cela allait moins bien, des gens parlaient de moi comme si je n'existais pas. Je sentais que ma vie ne m'appartenait plus, avec une image faussée de moi. En 2017, Marie-Mé, en couple avec le directeur musical David Laflèche, a connu les joies de la maternité. J'étais tellement bien avec ma fille à vivre du gros bonheur que je me disais « Mais est-ce que j'ai envie de replonger? » La réponse s'est avérée positive. Mais si je revenais, je n'allais pas le faire à moitié. Marie-Mé a d'abord décidé de quitter les productions J, boîte fondée par Julie Snyder, qui la représentait depuis sa sortie de Star Academy en 2003. J'ai dit à Julie « Toi, tu l'as fait. Ouvrir ta boîte, devenir le capitaine de ton bateau. Moi aussi, j'ai envie de faire ce move-là », raconte Marie-Mé. Quand Marie-Mé a annoncé en mars dernier qu'elle volait de ses propres ailes, elle a reçu des tonnes d'offres. Quand le téléphone s'est mis à sonner, je me suis sentie appréciée et à ma place. J'ai eu des appels de grandes maisons de disques, mais aussi de boîtes plus émergentes. J'ai trouvé cela vraiment cool. J'ai senti que j'avais l'appui de l'industrie. Pourquoi Evenco et Spectra? Il s'agit d'une famille, rappelle Marie-Mé. Le promoteur Evenco et Spectra sont deux entités sous la propriété du groupe CH. Le premier a produit les spectacles de Marie-Mé au Centre Bell. Les gens chez Spectra sont vrais. Avec eux, la première chose qu'on a faite, c'est d'écouter mes chansons. On n'a pas parlé de stratégie. Il y a quelque chose de flamboyant autour de moi. On dit que je suis une bête de scène et c'est une réputation que j'aime avoir. Mais au-delà de la fille maquillée, il y a une fille qui écrit ses tunes. Écrire, c'est la chose la plus libératrice pour moi. C'est là que je me sens le plus en vie. Tout part de mes chansons. Bien entendu, Spectra et Evenco sont ravis. C'est jour de fête chez Evenco, a déclaré hier Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, à Marie-Mé. Bienvenue chez nous, mais surtout chez vous. Nous avons une seule mission, c'est de porter tes mots et ta musique, a ajouté Jacques-André Dupont, PDG de Spectra. Marie-Mé a ouvert la porte à de nouveaux collaborateurs, à commencer par un réalisateur. L'heureux élu, le Britannique établi à Berlin, Oliver Sum, qui a travaillé avec les Louise Attaque et James Blunt. Il ne parle pas français, ce qui m'a permis d'aller plus loin, dit-elle. Marie-Mé a rencontré Oliver Sum lors d'une séance d'écriture à Los Angeles. Lui, il s'en foutait de ce que j'avais fait par le passé. Nous avons fait de la musique sans compromis. Il ne connaissait pas mes chansons d'avant. Il me disait « Aujourd'hui, qu'as-tu envie de faire? » La presse a pu écouter plusieurs nouvelles chansons de Marie-Mé, dont l'extrait « Empire » lancé hier. Premier constat, la star garde les deux pieds dans la pop. « La pop, c'est qui je suis », lance-t-elle. « Il n'y a même pas de guitare sur mon nouvel album. » Marie-Mé ne s'est pas laissée influencer par la mouvance R&B, plutôt la mouvance R&B et Trap. Ça fait deux fois que je fais cette erreur-là. Ses nouvelles chansons ont un caractère introspectif et des arrangements racés à la Robin. C'est un album très au jeu. Je suis transparente sur ma rupture, sur des choses qu'on m'a dites, sur comment je vois l'industrie. Je me suis mise à nu, détaille-t-elle. L'album raconte le cheminement de la chanteuse depuis 2 ans, le fait de me sentir perdue, de me rebâtir avec mon cœur de femme et d'artiste, de redécoller, d'exister, précise-t-elle. Marie-Mé n'a pas songé à co-écrire et à co-réaliser ses nouvelles chansons avec son amoureux David Laflèche comme elle le faisait avec Fred Saint-Gelais. Je ne voulais pas retomber dans ce pattern-là, mais je trouve cela hyper important de l'avoir dans mon équipe pour m'épauler. David Laflèche, directeur musical depuis 25 ans, se trouve plutôt à être le deuxième regard de Marie-Mé. Je l'invite à voir les choses sous plusieurs angles, explique-t-il. Et j'approuve tout derrière elle. Je suis un gars assez pragmatique. J'assure, en quelque sorte, le contrôle de la qualité. La communauté salue une chanteuse généreuse et fragile. Morane, qui a été retrouvée sans vie lundi à son domicile, avait un lien privilégié avec le Québec. Quelques personnalités interrogées par la presse ont salué la mémoire de la chanteuse belge morte à 57 ans. C'est un article dans la presse de Véronique Lauzon. Louise Forestier s'est liée d'amitié avec Morane en 1986 lors d'une tournée hommage à Jacques Brel. Les deux femmes qui avaient interprété par le passé le rôle de Marie-Jeanne dans 2 productions différentes de Starmania avaient même présenté un spectacle en duo lors de la première édition des Francofolies de Montréal. Les Québécois l'ont adoptée rapidement parce qu'elle avait quelque chose de très authentique. Ce n'était pas l'européenne sophistiquée et maniérée, et elle ne chantait pas comme une Lolita. Elle chantait comme une femme, et nous aimons ça du monde costaud au Québec, a expliqué Louise Forestier. L'auteur, compositrice, interprète québécoise se souviendra de son amie comme de celle qui pouvait tout chanter, même du blues, et des chansons en russe ou en québécois sans accent. Malgré le fait que Morane ait été pour de nombreux fans un soleil, Louise Forestier parle d'une femme qui avait aussi ses zones d'ombre et qui était extrêmement fragile. C'était de la terre cuite, Morane, de la céramique. Souvent, les grands artistes comme elle, c'est soleil et ombre, noir et blanc, mort et vivant. Et c'est pour ça que lorsqu'elle chantait, elle était si captivante, dit Louise Forestier. En 2012, toujours aux Francofolies de Montréal, Morane avait chanté ses plus grands succès entourés d'invités comme Michel Fugain, Daniel Lavoie et Isabelle Boulay. Ce spectacle a été immortalisé sur Morane Live. Antoine Graton était un des invités de la chanteuse belge lors de ce concert. Il a également fait les premières parties de Morane en France, en Suisse et à Monaco. Elle m'a permis, entre autres, de faire mon premier et unique Olympia de Paris. C'était une femme d'une générosité extrême. Et quelle voix! La première fois qu'on a chanté ensemble, elle a tout de suite senti ma nervosité. Elle m'a pris par la main et j'ai tout de suite senti que j'étais en présence d'une grande musicienne et surtout d'une grande âme, a dit Antoine Graton. Michel Fugain est à Montréal pour 3 spectacles à la Place des Arts. Hier soir, il a rendu hommage à celle qu'il considère comme un membre de sa famille en interprétant sa chanson « Mes précieux souvenirs ». Parce que malheureusement, nous devons maintenant ranger Morane dans la case souvenir, a dit l'artiste français. Morane, elle vient chez nous à la maison et nous ne savons pas quand elle va partir. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ma famille. Et je ne dis pas encore c'était ma famille, je ne peux pas. Une vague de témoignages d'amour et de tristesse a envahi les réseaux sociaux. Certaines personnes s'interrogent notamment sur la cause de la mort de l'artiste. À ce propos, les résultats de l'autopsie ne seront pas connus avant plusieurs semaines.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de blé. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car ce griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aimant dans des rêves lourds et à pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. J'ai le cœur en dame, 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 je crois en tout ce qui cogne. Comme, comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, 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 chaque fois que je tombe croque love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai
j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens, car il me manque cette audace. Des prises de position classe avec des je t'aime efficaces. Sans les jeux de baise à la ramasse, il me manque ce petit tac de sursoi pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Crois que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Eddie de Pareto et la pièce Random.
Alors, allons-y avec les sujets libres dans la section Opinion sous la plume de Nadia El Mabrouk, Idéologie queer, la nouvelle religion. Nadia El Mabrouk est professeure d'informatique à l'Université de Montréal. In queer we trust est le message que je peux lire tous les jours sur un autocollant à la porte de ma station de métro. Et si c'était une religion? Cela expliquerait la déferlante de messages virulents que j'ai reçus après ma chronique sur l'identité de genre afin de parfaire mon éducation sur le sujet. Le sexe serait un continuum d'états sur le spectre de l'arc-en-ciel. Il ne serait pas constaté, mais assigné à la naissance, des personnes seraient nées dans le mauvais corps. Il y aurait des femmes avec un pénis et des hommes qui accouchent. Toute objection est déclarée transphobe. En clair, l'idéologie queer est une orientation politique dont l'objectif est de nier la binarité des sexes. La notion de femme et d'homme serait une question d'identité de genre, autrement dit de ressenti, et non de sexe biologique. À qui profite cette déconstruction des concepts? Certainement pas aux femmes victimes d'inégalités sociales liées à la maternité, ni à celles aux prises avec des traditions patriarcales qui les aliènent sur la base de leur sexe. C'est pourtant ce nouveau paradigme qui, sans qu'aucun débat public n'ait eu lieu, imprègne les discours politiques et les orientations gouvernementales. Il est à l'origine du remplacement de la notion de sexe par celle de genre dans les documents officiels. Dernièrement, c'est Statistique Canada qui annonçait le remplacement de la variable sexe par la variable genre que ressent intimement une personne selon où elle se positionne sur le continuum de l'identité du genre. On croit rêver. Comment une institution aussi essentielle pour la démocratie pourra-t-elle baser ses enquêtes sur une dimension des plus floues et des moins scientifiques plutôt que sur une donnée objective? Comment le gouvernement compte-t-il remplir ses engagements de mesurer les écarts de salaire, d'employabilité ou de conditions de vie entre les hommes et les femmes, des données essentielles pour atteindre l'égalité? Pour ce qui est du continuum de genre, les formulaires de Statistique Canada offriront-ils la panoplie des identités que promeuvent les militants de la cause trans, soit transsexuels, transgenres, hommes et femmes trans, genre fluide, genre variable, travesti, sans genre, genderfuck, bispirituel, etc.? Cette idéologie qui a déjà largement pénétré la sphère politique se retrouvera-t-elle à l'école? L'instauration au Québec d'un cours qui permette aux enfants d'intégrer une vision saine de la sexualité et de les prémunir contre les agressions sexuelles est une excellente nouvelle. Mais les parents doivent être informés du contenu du cours, du matériel pédagogique et des intervenants. Leurs craintes sont légitimes. En Colombie-Britannique, par exemple, le ministère de l'Éducation a instauré le programme Orientation sexuelle et identité de genre, SOGI ou SOGI, qui, sous couvert de lutte contre la discrimination, intègre le vocabulaire transgenre. D'ailleurs, le jumelage qui est toujours fait entre l'orientation sexuelle et le discours trans ne risque-t-il pas de créer un ressac contre la nécessaire lutte contre l'homophobie? C'est pour manifester leur opposition à de tels programmes que des parents aux États-Unis, en Australie et au Canada ont retiré leurs enfants de l'école le 23 avril dernier. Au-delà des raisons religieuses de certains parents, une grande partie de la contestation concerne un matériel pédagogique développé par des militants de la cause trans. C'est le cas du site SOGI, financé entre autres par des organisations LGBTQ+. Dans une capsule vidéo publiée sur ce site, on nous présente une fille trans de 14 ans, autrement dit un garçon, qui explique être une fille, notamment par le fait qu'il aime dessiner des sirènes. Cette semaine, Radio-Canada nous présente Alexis, un ex-culturiste qui explique son sentiment d'être une femme par le fait d'avoir toujours été attiré par les jouets, le maquillage et les vêtements féminins. Alexis, devenu femme, donne des conférences devant des jeunes du secondaire. A-t-on fait tout ce chemin de lutte contre les stéréotypes pour en arriver là? Plutôt que de brouiller la distinction entre les sexes, le rôle de l'école n'est-il pas de faire en sorte que les garçons se sentent à l'aise de pratiquer des activités traditionnellement assignées aux filles? Et inversement, comment les enseignants devront-ils surfer sur ce paradoxe qui consiste d'une part à lutter contre les stéréotypes comme le prévoit la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autre part à aller dans le sens de la reconnaissance de l'identité de genre qui s'appuie en grande partie sur l'acceptation des stéréotypes? Nous sommes de nombreux parents à contester le cours d'éthique et culture religieuse qui cantonne les enfants dans des appartenances religieuses. Allons-nous faire face avec le cours d'éducation à la sexualité à une nouvelle idéologie encore plus intrusive qui nie les sexes? J'appelle le ministre de l'Éducation à s'assurer que le cours soit à l'abri de telles dérives. C'est donc l'opinion de Nadia Elmabrouk, professeure d'informatique à l'Université de Montréal. Alors, dans la section plein air de la presse, un circuit navigable à venir sur la rivière des Mille-Îles, c'est Marie Tison qui signe le texte. Les amateurs de tortues, de rats musqués, de grands hérons et de wawarons pourront recommencer à louer des embarcations au parc de la rivière des Mille-Îles dès samedi pour aller rendre visite à ces sympathiques bestioles. Les pagayeurs ont une autre raison de se réjouir. Le parc de la rivière des Mille-Îles travaille sur un projet de circuit navigable qui leur permettra de louer une embarcation à un endroit et de la laisser à un autre centre de location, puis de retourner au point de départ à bord d'une petite navette nautique électrique. Ce sera comme un système de bixi sur la rivière, lance Luc Ménard, directeur général d'Éco-Nature, l'organisme gestionnaire du parc de la rivière des Mille-Îles. La navette permettra également aux non-pagayeurs de parcourir la rivière et aux cyclistes de passer d'une rive à l'autre avec leur monture. M. Ménard affirme toutefois que le projet est encore en gestation. Une analyse de faisabilité a été faite il y a 2 ans, note-t-il. On a commencé les investissements, mais ce n'est pas un projet qui est encore complètement attaché. On est en train de finaliser le plan d'affaires. Le projet n'a pas encore de nom définitif. Pour l'instant, on parle d'un circuit de transport récréatif et utilitaire, une appellation qui manque un peu de poésie. L'idée, c'est d'avoir des infrastructures d'accueil de 2 montagnes à Terrebonne, soit des quais et des points satellites de services de location. C'est une partie de projet. C'est une partie du projet. L'autre partie qu'on aligne pour 2020 serait de faire le lien entre ces différents points avec un petit service de navette électrique, dit Luc Ménard, directeur général d'Éco-Nature. Le projet ne sort pas de nulle part. C'est une idée qui avait été amenée par Jean Lauzon, cofondateur d'Éco-Nature et du parc de la rivière des Mille-Îles, note M. Ménard. Ça fait plusieurs années que c'est quelque chose qui mijote, mais là, on tente de concrétiser cette idée-là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens de ce mercredi 9 mai. Ici Hélène Denis qui vous donne rendez-vous dans quelques minutes à l'émission Les Paractualités. Un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté Vous serez là pour les paractualités, puis on se retrouve aussi la semaine prochaine pour le quotidien des quotidiens. À bientôt!